Bonsoir et bienvenue dans ce 17e épisode de Culture Sang et Or, l'émission hebdo, vous la connaissez, hein, qui débriefe les matchs du Racing et l'actualité du peuple sang et or. Alors aujourd'hui, nous reviendrons évidemment sur ce match nul face à Nantes. Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on est frustré? Est-ce qu'on est mi-content, mi-frustré? Pour trancher là-dessus avec moi ce soir, il est la caution journaliste de Culture Sang et Or, mais également la voix du RTL sur la plus grande radio de France, c'est Sam Duhamel de RTL. Bonsoir Samuel.
Salut Thomas, bonsoir à tous.
Il est l'autre caution journaliste, mais également la caution chemise de Culture Sang et Or, c'est Grégory, l'allemand de la Voix du Nord et la Voix des Sports. Bonsoir Greg.
Salut à tous.
Ça me fait plaisir de vous retrouver. Il est un peu le Loïc Badet de Culture Sang et Or. Il est arrivé sur la pointe des pieds dans l'équipe et maintenant on peut plus se passer de lui. C'est Fabien Rosier. Bonsoir Fabien.
Salut à tous.
T'as vu, j'ai un petit peu travaillé ta présentation contrairement aux autres.
Enfin, je te remercie Thomas.
Je sais pas trop ce qui m'a plu, mais j'avais envie. Voilà. Et enfin, il a fait le plaisir d'accepter notre invitation. Même si Bollard connaissait déjà bien sa voix, il l'a fait résonner encore un peu plus fort depuis le début de saison. Il forme le nouveau duo de speakers du RC Lens avec Karine. C'est Silvano. Bonsoir Silvano.
Bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde.
Alors, je vais expliquer un peu aux gens. Hein. Celui qui a le t-shirt orange, c'est Silvano. Celui qui a le t-shirt plutôt noir, c'est moi. Hein. Faut, voilà, faut regarder en visio actuellement. On est, voilà, on a des traits communs.
Allez chercher les chasubles, vite.
Voilà, c'est ça. Voilà. Moi, je suis équipe sans dossard. Voilà. Vous pouvez. Alors, donc, avec tout ce beau monde, nous reviendrons sur ce RC Lens Nantes. On adressera les bons points, les mauvais points. On analysera tout ça. Après, ça aura lieu le célèbre quiz Culture Sang et Or. Petit indice, ça parlera de Raymond Domenech et du RC Lens, vous allez voir. Et enfin, après avoir interviewé notre ami Silvano, nous nous projetterons sur le OMRCL de mercredi, parce que vous le savez, on réattaque très très vite. Pour Silvano, vous pouvez poser toutes vos questions sur le Facebook Live en ce moment, je n'hésiterai pas à les lui poser, surtout si elles sont intéressantes, mais je vous fais confiance, parce qu'en général, toutes les questions que vous posez sont intéressantes tout au long de l'émission, n'hésitez d'ailleurs pas à les poser. Allez, il est temps de démarrer l'émission et de siffler la première mi-temps. Alors avant de démarrer, je tiens juste à m'excuser auprès de Sylvain Cress qui m'a remplacé à l'animation pour l'émission de la semaine dernière. Ça fait deux fois qu'il a la gentillesse de me suppléer. La première fois, c'était pour analyser une défaite 4-0 face à Lille. Et là, la semaine dernière, deux défaites d'un coup. Donc voilà, promis Sylvain, la prochaine fois que je te donne l'émission, je te ferai un double cadeau. Je te donnerai une victoire face au PSG et une émission sans Greg l'allemand. Voilà, pour que ça se passe à peu près bien. Sachez en tout cas, il faut que je vous le dise, Culture Sang et Or, ça s'agrandit de semaine en semaine. L'année 2021 est une année un peu folle pour Culture Sang et Or. On a un site culturesangetor.com sur lequel il y a plein d'articles parce qu'on est une armada d'auteurs maintenant qui font des articles pour le RC Lens. Vous verrez, il y a notamment un article hyper intéressant sur le club de Milo Nerlos. Hein, vous le savez, le club qui appartient également à Joseph Ogroyan, à l'instar du RC Lens. Il y a de l'actu, il y a de l'histoire. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux Culture Sang et Or. On est sur Twitter, sur Facebook. On a même une chaîne YouTube maintenant sur laquelle vous pouvez suivre l'émission que vous êtes en train de suivre maintenant, si vous voulez la revoir ou si vous voulez l'envoyer à des gens, on a notre chaîne YouTube. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a plein de trucs chouettes en tout cas, donc n'hésitez pas à vous connecter, à nous suivre, culturesangetor.com. Allez, on parle foot avec ce RC Lens Nantes, donc d'hier. Ma question d'ouverture sur ce match, pourquoi le RC Lens a-t-il autant de mal face aux équipes qui déjouent? Greg, est-ce que tu as la réponse à cette question?
Bon, déjà, savoir si les équipes ont déjoué, je suis pas toujours convaincu. Encore une fois, Lens hier se met un peu dans la panade pour moi, hein, évidemment. Si ce pénalty rentre, c'est quand même très différent parce que l'équipe en face, elle doit sortir. À chaque fois que Lens a ouvert le score cette année, depuis le début de saison, il n'a pas perdu et il a même gagné en général. Donc, c'est assez normal, on le disait la semaine dernière, c'est assez normal qu'une équipe qui mène au score joue un peu plus bas. Après, en plus, les Nantais, ils ont un problème, c'est un vrai problème de talent dans cette équipe, moi je trouve, hormis quelques joueurs qui ont un peu de technique, sinon c'est quand même très basique.
On le sait, hein, avec Domenech, globalement, le foot, ça se passe souvent avec un bus, et là, ça fait plusieurs fois qu'il met le bus avec le FC Nantes, il faut l'avouer, et depuis qu'il est arrivé, c'est un peu sa stratégie.
Ouais, puis c'est une équipe qui n'est pas en confiance, qui a besoin de points, un peu comme Strasbourg la semaine dernière. Donc, on peut pas en vouloir, ce qu'on disait la semaine dernière, pour moi, je n'ai pas changé. On ne peut pas en vouloir à des équipes qui doivent prendre des points pour se sauver, d'être pragmatique. À côté de ça, est-ce que Lens a du mal contre ces blocs-là? Oui, mais c'est le cas de beaucoup d'équipes. C'est très compliqué aujourd'hui, quand n'importe quelle équipe, et c'est vrai, c'est pas qu'en Coupe de France que les équipes jouent bas et quand elles sont bien organisées, elles sont embêtantes à jouer. C'est aussi en championnat contre des équipes du même niveau parce que tout le monde sait défendre. Tout le monde sait garder une zone. Et si tu n'as pas des joueurs extraordinaires pour faire des différences dans les petits périmètres, c'est évidemment compliqué.
Alors, Sylvain, toi, hors antenne, tu me disais que tu ne trouves pas forcément, un petit peu comme Greg, là, que le FC Nantes a déjoué hier.
Comme le dit Greg, je pense, il manque vraiment de qualité individuelle dans son équipe, Domenech. Alors, ils font un peu avec, je pense, avec les moyens du bord. Mais j'ai trouvé qu'ils ont tenté quand même de se projeter un petit peu vers l'avant. Ils n'ont pas finalement trop attendu. Ils ont fait le dos rond quand ils ont ouvert la marque. Après, ouais, forcément, le score était en leur faveur, donc ils n'avaient pas lieu de se découvrir. Ils essayaient de prendre des points, c'est comme le disait Greg. Mais je les ai trouvés moins attentistes que Metz, par exemple.
Okay.
J'avais trouvé que Metz était plus recroquevillé dans son camp. Alors par contre, ils revenaient vite. Ils étaient vraiment très vite en place et il y a beaucoup d'actions où ils sont tout de suite 10 derrière. On voyait leur bloc qui redescendait très très vite. Ça, c'est un fait. Ça, c'est vrai que de ce côté-là, ils ont vite remis leur dispositif en place, quoi. Ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas laissé l'an se développer, quoi.
Et il se trouve que l'année dernière, c'est un peu moins vrai cette année, mais la grosse force de Nantes, c'était sa charnière centrale, hein, Giroto et Palois. Palois aussi, hein, qui est un petit peu des traits communs avec Sylvain et moi. C'était la grosse force.
On portait le même slip d'ailleurs.
Et on porte
le même slip jaune, là.
Ouais,
c'est bien remonté.
C'est exact. Et
il est un peu plus barqué que nous, quand même.
Un chouïa, voilà.
Presque rien.
Toi, Fabien, de ton côté, est-ce que tu es d'accord pour dire que le RC Lens a du mal face aux équipes qui déjouent ? Est-ce que pour toi, le RC Lens a déjoué hier face à Lens ?
En tout cas, Lens a du mal quand elle a autant la possession du ballon. J'ai noté depuis le début de saison, ça nous est arrivé 9 fois d'avoir à hauteur de 60% du temps le ballon, et sur ces 9 fois on a gagné que 3 matchs. Donc c'est pas beaucoup, et je pense que c'est un des ingrédients que les adversaires maintenant connaissent, mais qui est utilisé par d'autres équipes, hein, dans le championnat, c'est-à-dire d'être bien en place, de laisser le ballon à Lens. Et avec notre système de jeu, certes on quadrille bien le terrain, on trouve des solutions de passe, souvent latérales, mais je trouve que là, ces derniers temps, on a un déficit technique qui fait que dans l'avant-dernier geste, et je parle même pas du dernier geste, on n'arrive pas à être aussi tranchant qu'on l'était auparavant, et on manque aussi de simplicité, je trouve, dans les liaisons. On fait peut-être la petite passe en trop qui fait que ça ralentit un peu notre animation offensive, on fait le décrochage qui fallait pas, on manque de simplicité sur certaines situations, et ça fait qu'on est en difficulté contre ces équipes-là. Ouais.
Sam, même question, est-ce que tu trouves que Nantes a déjoué ? Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'on est en difficulté ?
Alors, Nantes a déjoué, je dirais non. C'est-à-dire que Nantes, c'est une équipe qui a besoin de confiance et qui a besoin de se rassurer, qui a besoin de prendre des points. Donc, en plus, avec un entraîneur comme Domenech, forcément, quand Nantes mène 1-0, Nantes est dans une logique de conserver le score, parce que c'est dans l'ADN de Raymond Domenech. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, je rebondis également sur ce que disait Greg, à savoir que toutes les équipes ont des difficultés face à des groupes, à des blocs bas, regroupés. Il suffit de voir ce qui s'est passé à Lyon hier. Il suffit de voir ce qui s'est passé à Lille face à Reims. Ouais. C'est très compliqué pour les Lillois. En fait, quelque part, même le Paris Saint-Germain a des difficultés face au bloc bas. C'est-à-dire qu'en fait, pour que le Paris Saint-Germain s'en sorte face au bloc bas, il faut que tout à l'heure, j'entendais le terme tranchant. Il faut que leurs joueurs majeurs techniquement soient super tranchants et réussissent à faire des différences sur des petits périmètres. En fait, t'as soit la différence technique des grands joueurs, soit les coups de pied arrêtés, parce que forcément il y a beaucoup moins d'espace et donc c'est beaucoup plus compliqué pour se projeter rapidement et trouver une combinaison en 2 ou 3 passes comme le RC Lens peut le faire et sait le faire. Donc c'est pas un problème 100% en soi, hein, loin de là. C'est simplement que c'est défendre bas. De toute façon, on parlait de Metz. Metz est très efficace depuis quelques temps parce que ils ont vraiment investi vachement d'énergie justement sur ce dispositif bas et prendre les équipes en contre. Donc c'est simplement aussi être un peu plus patient, un peu plus intelligent, et puis avoir des joueurs qui sont au top techniquement et physiquement pour créer des petits décalages et des petites différences.
Pour parler physique rapidement, on a une question de Stiokwai qui nous sur le live qui nous demande est-ce que le fait d'avoir repris tardivement au 1er janvier n'a-t-il pas eu des causes ? Je vais me permettre de répondre avant de vous donner la parole, parce que je pense que le RC Lens n'a pas repris beaucoup plus tard que les autres, et je pense pas que le problème soit physique. Je sais pas, Greg, toi, ce que t'en penses ?
Alors, je sais pas si c'est dû au fait d'avoir repris l'entraînement le 1er janvier. On rappelle que ça devait être une journée avant et que la victoire face à Brest, le staff s'est dit allez, on offre une journée en plus, un petit cadeau au groupe, et vous reprendrez que le 1er janvier. Je pense, je suis pas sûr que ce soit dû à ça vraiment. Je pense, mais par contre, c'est vrai qu'il y a un petit déficit athlétique aujourd'hui. Il manque le coup de rein, à l'image d'Ignatius Ganago, par exemple.
Ouais.
Aussi parce que évidemment, il a eu cette période de blessure. Hein, mais on sent bien que il y a le coup de rein qui est beaucoup moins tranchant. On parlait de tranchant, c'est peut-être le mot de la soirée. Mais, et surtout, je trouve que cette équipe, elle presse peut-être beaucoup moins, de manière beaucoup moins efficace en vrai.
Okay. Quand
saison, c'est là où elle faisait des différences, où elle récupérait le ballon et vite, haut, et surtout elle arrivait à être en transition rapide, très très vite dangereuse. Je me souviens de Bordeaux qui avait été asphyxié par exemple comme ça, c'était hyper impressionnant du stade, où on voyait que Lens gagnait tous ses duels, d'abord parce qu'il était bien en place, mais aussi parce que athlétiquement, le Racing était capable rapidement de se projeter, et c'était vraiment très très dur pour Bordeaux de subir ces vagues-là. Oui, je sens qu'il y a un petit coup de moins bien. Si c'est une équipe qui donne tellement, on l'a vu à Lyon, hein, parce que même franchement à 3-0, cette équipe à Lyon, elle aurait pu dire stop, terminé, on pense déjà au match contre Strasbourg, mais comme elle est hyper généreuse, et ben peut-être que c'est aussi cet enchaînement, cette volonté de jouer toujours à fond qui commence peut-être à se faire un peu sentir, au-delà simplement du manque d'inspiration technique dont parlait notamment Fabien tout à l'heure.
Ouais. Il y a peut-être effectivement la demi-seconde en moins qui faisait toute la différence en ce début de saison. Il y a une question de Johan. Je voulais faire un point sur justement Jonathan Grady. Johan qui nous dit que Jonathan Grady donne trop de pénalty. Bon, il faut savoir que c'est le deuxième de la saison qu'il concède, donc c'est peut-être une illusion de l'esprit. Mais est-ce qu'en tout cas, on va revenir sur cette occasion. Est-ce que ce pénalty aurait pu être évité? Je vois que Sam Dodeline, est-ce que ce pénalty...
En fait, je Dodeline parce que j'imagine que dans les deux, il y a celui de Monaco qui avait été accordé puis refusé, qui n'est pas comptabilisé. Donc, c'est peut-être deux et en fait, c'est peut-être trois. Et c'est vrai que trois pénaltys voilà, j'imagine qu'il a joué quasiment tous les matchs. Donc, peut-être 17, 18 matchs, c'est pas rien. Donc là pour le coup, ça me paraît évident qu'il est possible d'intervenir ou non d'ailleurs, parce que le joueur nantais, il est quand même bien sur la ligne de corner. Exactement, il est très excentré, sans faire de faute. Donc c'était disons qu'il y a Jonathan Grady, mais il y a également les autres centraux qui ont, je trouve, mais par manque, je pense tout simplement d'expérience. Jonathan Grady, c'est un joueur qui a 28 ans, mais qui a pas beaucoup de matchs de Ligue 1 derrière lui. Il y en a peut-être 15-17 avec Lens et 20-25 avec Caen. Donc c'est pas énorme, et puis les autres sont pas forcément extrêmement expérimentés. Et comme l'a dit Greg, Lens, c'est une équipe généreuse, c'est une équipe qui en veut, c'est une équipe qui se bat, et donc de temps en temps c'est un tout petit peu trop.
Ça dépend de
l'équilibre en fait.
Sylvain, pour toi le penalty était évitable?
L'action elle se finit en plus. Enfin, le ballon est passé quand le tacle, il entre au contact avec son attaquant Grady. Du coup c'est un peu dommageable quoi. C'est vrai que il aurait peut-être plus, mais bon, il y va quoi. Après, on peut pas lui reprocher d'y aller, de mettre de l'impact et d'être présent. Et... moi, je trouve que c'est plus de la maladresse que on peut pas lui dire qu'il concède trop de pénalty. Enfin, ça me fait penser à Koscielny à une époque, on disait qu'il concède plein de pénalty contre son équipe, etc.
Mais en contrepartie de ce qu'il donne, ça compense peut-être. Et en plus, il avait affaire à un vrai client, hein, parce que Randal Kolo Muani aujourd'hui est un des joueurs les plus en forme du FC Lens. En tout cas, cette saison, c'est un des joueurs qui fait la plus belle saison. Donc, c'est pas forcément évident de marquer Randal Kolo Muani. Greg Lallemand, qui est en mode Lilian Thuram avec le doigt sur la bouche, veut rajouter quelque chose à ce débat, je pense.
Ouais, je trouve que surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que cette équipe, elle joue avec trois défenseurs centraux. Donc, ça change déjà pas mal de choses dans la prise de responsabilité au niveau du contact dans les zones chaudes. Alors, évidemment qu'on voit plus Jonathan Grady. Et je rappelle que Loïc Badet, on avait aussi enseigné à Lorient. C'est arrivé à Jonathan Grady. Il avait fait une faute aussi, je ne sais pas, souvenez-vous, notamment à Lorient, où il fait une grosse faute, Jonathan Grady, sur Gerbich. Et malgré le VAR, et je pense parce qu'il y avait hors-jeu d'abord dès l'orienté, il n'y avait pas eu pénalty. Donc, c'est vrai que c'est des fautes qui paraissent en plus hors-champ. Et ce qui provoque chez les gens cette sensation que Jonathan Grady, il ne maîtrise pas tout. Mais à côté de ça, c'est un jeu à Lens cette année qui nécessite cette prise de risque aussi dans cette zone-là. Parce que si vous laissez évidemment manœuvrer les équipes, évidemment, on a l'impression hier que le tacle il est un peu en bout de course, etc. Moi, je suis même pas. Franchement, tout le monde dit qu'il y a faute. Il y a probablement faute. J'ai vu des pénaltys pas sifflés dans les mêmes genres de contacts, hors champ, après que l'arbitre laisse l'avantage, il revient. Bon, c'est très bien. Je suis pas persuadé qu'il faille pas aussi regarder ça d'un œil plus global. Et évidemment, quand tu as trois défenseurs centraux et que cette équipe elle laisse souvent venir les balles, il y a plus de contacts dans des zones dangereuses. Et donc, ça explique aussi en partie cela, même si évidemment, Jonathan Gravy doit faire peut-être un effort de maîtrise dans ces zones dangereuses. Mais de stigmatiser maintenant, comme ça a pu être le cas pour Fortes. D'ailleurs, on ne parle plus de Fortes. Hein, depuis quelques temps, Fortes, on n'en parle plus parce qu'il fait des super matchs. Et j'ai l'impression que, vraiment, moi, je le vois. Alors, il ne faut pas s'arrêter aux réseaux sociaux, aux commentaires et tout. Mais à un moment donné, on avait le sentiment que les gens avaient envie presque que Fortes ne soit pas génial pour pouvoir lui rentrer dedans. Aujourd'hui, il fait des matchs extraordinaires. Et il ne faut pas que Jonathan Gravy devienne la tête de Turc parce qu'en plus, il fait vraiment… des matchs, globalement, c'est quand même un défenseur solide.
Il y a pas mal de clubs qui s'intéressent à lui, apparemment, hein, d'après ce qu'on a dit. Il est pas mal en vue sur ce début de saison lensois.
C'est une info qui est un peu floue sur son contrat, Jonathan Gravy, il est en contrat jusqu'en 2022. Alors, l'info est un peu passée inaperçue, mais en gros, il avait une année supplémentaire en cas de montée. Donc, il avait signé 2 ans, effectivement, au départ. Mais il avait une année, il avait signé 2 ans au départ, il a une année supplémentaire automatique et donc il est bien en contrat jusqu'en 2022. Jonathan Gravy.
Voilà, sachez-le, ça c'est dit, ça c'est Greg Lallemand à la pointe de l'actu du RC Lens et de la vie. Merci beaucoup, Greg. Ma question sera simple, la prochaine, c'est est-ce que globalement on peut retenir quelque chose de positif de ce match, hormis cette fin de série de défaites, Fabien?
Le positif, c'est évidemment le résultat. Avant le match, si on nous avait dit qu'on allait prendre un point à Nantes, on aurait été beaucoup assigné pour ce résultat. Donc, si on se place du point de vue du résultat, c'est positif. On arrête cette série de 2 défaites et on assure l'essentiel en prenant un point et en s'offrant de meilleures perspectives que si on avait perdu, quoi.
Sam, tu retiens quoi?
Juste pour rebondir sur ce que dit Fabien, c'est vrai que Franck Hez, il a pas apprécié le terme hémorragie qui a été utilisé hier par un journaliste après les 2 défaites qui auraient pu se transformer en 3 défaites. Ouais. Je peux le comprendre, mais c'est vrai que alors même s'il y a encore beaucoup d'avance sur les équipes relégables, 3 défaites pour commencer une année, ça aurait fait un petit peu tâche.
Donc, sachant qu'il y a Marseille juste après.
Il y a Marseille qui arrive juste derrière. Donc là, pour le coup, cette capacité de réaction et d'aller chercher un point alors que tu es mené à l'extérieur avec en plus un concours de circonstances qui est quand même très défavorable, c'est une manière de te rassurer et puis quand même de te projeter vers l'avenir avec de toute autre perspective que celle que t'offrait une 3e défaite consécutive face à une équipe qui est… C'est vrai que je suis d'accord avec Greg, qui est assez moyenne malgré tout par rapport au niveau de la Ligue 1. Donc voilà, la capacité de réaction, le fait que malgré tout il y ait eu assez peu d'occasions pour le FC Nantes, même si encore une fois je pense que c'est une équipe qui est en panne de confiance et que c'est dans l'ADN de Raymond Domenech de proposer des équipes en bois, pardon de le dire. Mais voilà, ça c'est aussi des choses sur lesquelles s'appuyer dans pour les prochains matchs, parce que hormis le penalty de Louza, il n'y a pas beaucoup de. Enfin, Jean-Louis Deca, il n'a pas fait un énorme match, quoi.
Non, pour le coup, la défense t'a bien mis à l'abri.
Là, on n'a pas fait un match extraordinaire non plus. Il faut être quand même lucide. Ouais. Très peu d'occasions des deux côtés.
C'est vrai.
Quand même assez logique sur le match. Mais penser que le RC Lens a joué à sa main hier à la Beaujoire, c'est quand même. Un manque de lucidité parce qu'il y a eu très très peu d'occasions lensoises quand même sur ce match.
Et du coup, Greg, toi, tu dirais plutôt que le RC Lens n'a pas fait un bon match ?
Non, je dirais pas qu'il n'a pas fait un bon match. Je trouve que le point positif, quand on parlait de point positif, c'est quand même dans un match qui est quand même mal embarqué, qui tout s'enclenche un peu mal. On sent que cette équipe, elle a du mal à. Elle est dominatrice parce qu'elle est meilleure, voilà, individuellement, mais elle a du mal à créer des vraies différences, des vrais décalages. Elle a un pénalty qui peut lui ouvrir le match parce que. Alors, on peut pas dire avec des si, on ne sait pas, voilà, évidemment, mais on a quand même le sentiment que en ouvrant le score, derrière, ça aurait pu dérouler un petit peu. En tout cas, il y aurait plus d'espace. Elle loupe ce pénalty par Gaël Kakuta, qui est quand même son leader technique, quand même, et de très, très loin cette saison. Il envoie le ballon au-dessus, bon, voilà. Derrière, elle prend le pénalty. Alors, moi, je suis même intimement persuadé qu'il n'y a pas pénalty pour Lens avant. Ça a dû jouer un peu au moment du contact. L'arbitre, il dit, bon, allez, pénalty, machin, tout de suite. Ouais. Je pense que voilà, consciemment, même si c'est pas un scandale qui est pénalty pour Nantes. Hein.
Et donc, ça aurait pu ne pas siffler. Très peu de gens l'ont dit, mais ça aurait pu ne pas siffler.
Ça aurait pu. Ouais, c'est pas un scandale, voilà, absolument pas. Mais bon, c'est quand même, c'était quand même une action un peu, un peu bizarre comme ça en chambre. Bon, bref, pour, au-delà de ça.
Je suis désolé d'ouvrir une parenthèse hein, qui est un autre débat, mais je l'ai déjà dit dans Culture sans heures. J'ai du mal avec le côté décisif de l'action qui est un penalty versus les certaines fautes faites. Par exemple, sur là, une action qui n'était pas du tout décisive, on offre une énorme possibilité de but. Mais bon, c'est le jeu. Mais je trouve que dans le foot, cette règle est un peu mal faite. Voilà, désolé Greg de t'avoir coupé pour ça.
Non, pas de souci. Mais et donc, tout ça pour revenir sur l'idée simple. Que ce match il est vraiment mal parti quoi. Et puis le mi-temps elle est quand même assez mauvaise, il n'y a pas de fluidité dans le jeu, il y a encore moins de décalage qu'en première mi-temps, et donc tu arrives quand même dans un match qui n'est pas terrible par le mec qui a loupé quand même le pénalty, donc qui n'est pas forcément dans la confiance de sa saison, alors que Dieu sait qu'il est en confiance. Tu arrives quand même à arracher à la 80e minute un point à l'extérieur, même si on se dit bien match à l'extérieur en ce moment, ça ne veut trop rien dire, mais tu vas chercher un point qui te permet d'avoir 13 points d'avance aujourd'hui sur la zone de relégation. Donc, quand tu n'es pas bon dans un match et que tout part un peu dans le mauvais sens et que tu arrives quand même à prendre un point et que tu es promu, ça reste quand même
plus positif. Oui, il faut pas faire la fine bouche. J'ai quand même présenté en début d'émission ce match comme RC Lens Nantes. C'est incroyable. J'en oublie de savoir quand est-ce qu'on joue à l'extérieur à domicile vu le contexte. Sylvain, toi, est-ce que tu trouves qu'on a quand même fait le match qu'il fallait faire?
Il fallait pas perdre, comme l'a dit Fabien. Ça aurait été très compliqué de 3 défaites d'affilée. Je pense que dans les têtes, ça aurait commencé à peser. Donc là, la capacité de réaction de l'équipe a été intéressante quand même, parce que même sans se procurer des tonnes d'occasions, ils n'ont pas lâché, comme on a un peu l'habitude. Et puis, dans les points positifs, on peut retenir aussi l'entrée de Tony Mauricio, parce que, mine de rien, il n'y a pas beaucoup à se mettre sous la dent et il fait encore une passe DS.
Je dirais même les entrées des trois remplaçants.
Ouais, et même le changement tactique aussi qui a été mis en place, finalement, il a porté ses fruits. Donc, c'est encore une note positive à mettre dans la bonne colonne pour ce match.
On se rend compte de plus en plus que Franquès, pour rattraper des situations, n'hésite pas à passer en 4-4-2. Ça fait 2-3 matchs qu'il le fait, si je dis pas de bêtises. Et ça commence à devenir payant. Donc visiblement, il y a un travail qui est fait en ce sens lors des entraînements collectifs. Et hier, ça a marché. Et encore une fois, effectivement, Greg, tu as raison de le signaler, d'avoir un joueur qui aurait pu perdre un peu les pédales après ce genre de match, qui réussisse à marcher, c'est aussi un bon point c'est un bon point pour la suite de la saison. On va passer... au carton rouge pour ce match, messieurs, vous avez tous préparé un petit carton rouge, lequel est-ce pour aller Fabien, ton carton rouge sur ce match c'est quoi?
Moi le carton rouge c'est sur l'animation offensive de l'équipe sur ces derniers matchs. Comme je disais tout à l'heure, je trouve qu'on parvient moins à se montrer dangereux, on atteint moins ce qu'on appelle la zone de déséquilibre par les passes, par nos mouvements. Techniquement, je trouve qu'on est en dessous. Je l'ai dit, ça se voit surtout sur l'avant-dernier geste et le dernier geste. On est beaucoup moins efficace. On va faire des passes alors qu'à une autre époque, on savait justement être beaucoup plus tranchant que ça dans nos attaques. Et du coup, on a moins d'occasions. On met moins nos attaquants en position favorable et ça se traduit par des tirs cadrés. J'ai regardé avant l'émission contre Lyon, on fait que 3 tirs cadrés. Bon, on marque 2 fois malgré tout, 2 beaux buts. Contre Strasbourg, 2 tirs cadrés. Contre Nantes, 1 tir cadré. Donc la prochaine étape, c'est 0 tir cadré. Et là, c'est sûr qu'on marquera pas un but. Donc je me dis qu'offensivement, on doit...
Auto-but, auto-goal.
Ou un but contre son... Je pense qu'on doit réagir et peut-être proposer autre chose, mais c'est très difficile de se dire qu'il faut modifier des choses dans cette équipe qui a jusqu'à présent aussi bien tourné et nous a offert des émotions footballistiques dont on se souvient.
On a jusqu'où dans les cartons rouges, on parle de Kakuta, 6 ballons perdus et un penalty loupé, c'est peut-être son pire match d'après certaines personnes dans le chat. C'est un peu dur, je dirais. Sam, ton carton rouge sur le match?
Juste d'abord pour rebondir sur Fabien, moi je comprends tout à fait ce que dit Fabien et je vais dans son sens. Simplement, les équilibres dans le foot sont vraiment très 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 précaires.
C'est fragile.
Très fragile. Il suffit quelque part que parmi les offensifs, il y en ait un qui reprenne feu, comme on a pu le voir en début de saison avec Ganago, comme on a pu le voir en début de saison avec Kalimuendo, et hop, ton la physionomie de ton match, elle change et derrière ça peut enquiller avec d'autres buts qui vont arriver. Donc je suis totalement d'accord avec Fabien, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut pas tomber dans la sinistrose, ça peut revenir vite. Ouais. Comme c'est parti relativement vite aussi. Deux cartons rouges pour moi si c'est possible.
Donc ça d'habitude t'as pas envie, t'as la main.
il y en a qu'un par rapport à Lens.
Il y en a un pour Gaglanement.
Non, pour le coup, c'est assez rare, il n'y en a pas pour Gaglanement, j'en suis. Il y en a quand même deux.
Pourtant, il y avait matière. Hein.
C'est pas, j'allais dire Jonathan Grady, mais c'est pas que Jonathan Grady. C'est simplement j'en avais déjà parlé à la toute fin d'année, c'est qu'il y a régulièrement les défenseurs centraux en soi. Greg, on a très bien parlé, mais ils sont dans une forme d'engagement excessif qui coûte des penalty ou des coups de franc très bien placés pour l'adversaire,
des points globalement
jaunes très tôt dans la rencontre et donc au final des points. Donc c'est toujours trouver le juste équilibre entre l'engagement et la combativité qu'il faut mettre quand on est défenseur pour bloquer son attaquant et aussi malgré tout un petit peu de distance par rapport à l'avènement et par rapport à son adversaire pour pas mettre son équipe en difficulté. Et puis le deuxième carton rouge, mais là c'est quelque part c'est un peu malsain, mais je vais quand même le faire pour l'ensemble de son œuvre. Carton rouge pour Raymond Domenech qu'on a subi pendant 6 ans comme sélectionneur. Voilà, moi j'ai rien contre l'homme, mais l'entraîneur, sincèrement, je peux pas le sentir. Donc voilà, pour tout ce qu'il nous a fait, carton rouge, ça me fait plaisir de te le donner, Raymond.
Pourtant, la mission pour l'instant s'apparente à une réussite. Alors, David de supporters nantais, les supporters nantais, pour la plupart, pour certains, ne regardent même plus les matchs. Pour eux, la vérité se passe même plus sur le terrain. Le jeu ne les intéresse plus, mais en termes d'efficacité et de nombre de points, c'est assez correct comme début de bilan.
3 points en 3 matchs.
Ouais, c'est vrai que c'est pas si énorme. Greg.
Ouais, moi, mon carton rouge, je l'ai un peu. J'en ai parlé un peu vite fait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'Ignatius Ganago, alors carton rouge, c'est un bien grand mot, mais au-delà du fait que. Je trouve qu'il y a manqué de présence déjà de manière générale de la part du RC Lens dans la surface depuis quelques matchs. Parce que, par exemple, hier, Ismaël Bourra ou Jonathan Klaus. Et donc ça englobe aussi Florent Sotoka évidemment, mais Jonathan Klaus et Ismaël Bourra ont quand même multiplié les débordements, ont envoyé quelques bons centres, et je trouve que ça a manqué de présence. Alors notamment pour Ignatius Ganago qui en plus de ça, je trouve, force un peu en ce moment. Alors qu'est-ce qu'il faut mettre dans le fait évidemment que sa blessure l'a handicapé, il a beaucoup moins ce double coup de rein qui faisait la différence en début de saison, mais au-delà de ça, il y a évidemment la nouvelle concurrence de Kalimuendo qui lui a peut-être mis un peu de pression quand même, parce que quand il a été blessé, il était indéboulonnable et on voyait même comme le meilleur attaquant de Ligue 1 quasiment, l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1. Aujourd'hui, il y a Kalimuendo qui est venu s'immiscer là-dedans, donc j'ai l'impression qu'il veut forcer un peu, à l'image de sa frappe, souvenez-vous, hier en première mi-temps, où il est dans un angle compliqué côté gauche. Et il y a 3 mecs dans la surface, il y a un 3 contre 3 à jouer, il y a un bon centre fort à mettre devant le but, il envoie une frappe extérieure qui finit en touche à l'opposé, où j'ai l'impression qu'il force vraiment ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas de réussite non plus en deuxième mi-temps parce que il a un bon contrôle dans la surface où il prend pas loin de vitesse et il glisse à ce moment-là. C'était une belle opportunité, mais je trouve que tout est un peu forcé dans ses dribbles, dans ses tentatives. Il a peut-être envie de se rassurer et je trouve pas qu'il le fasse bien. Voilà. Okay.
Pour, sur YouTube, parce que sachez qu'on est également en direct sur YouTube et des gens mettent des commentaires. On a Papy Gomis qui donne son carton rouge. Il le donne à Kakuta. Il dit clairement, Kakuta, pour moi, au-delà du penalty loupé, à chaque ballon touché, il ralentissait le jeu, jouait avec sa semelle comme s'il avait à prouver qu'il était technique. Pour moi, son pire match. Alors, sachant qu'il a été élu homme du match par les supporters sans erreur sur l'appli du RC Lens, mais aussi pour certains, c'est son pire match. Sylvain, ton carton rouge pour Forest Sacco.
Alors, j'avais pensé un petit peu à parler de Ganago comme Greg l'a fait, parce que plus de son karma, j'ai l'impression qu'il n'y arrive plus du tout depuis sa blessure à se remettre dans le bon sens, en fait. Comme hier, par exemple, il contrôle un peu orienté et pouf, il glisse, alors que il y a 2 mois, il aurait mis une accélération, contrôle orienté, frappe, et puis on aurait marqué un but. Et du coup, je suis super déçu pour lui, en fait. C'est pas par rapport à ses prestats et tout, je pense que ça va revenir, mais là, pour le moment, je suis déçu par rapport à ça. Je le sentais très euphorique, en fait, en début de saison et tout. Et j'ai l'impression qu'il a perdu un peu ce côté joie de vivre et tout. Il doit se poser des questions, et je suis triste pour lui, en fait.
C'est dur d'être attaquant de pointe. Hein, dans le...
Ouais, c'est bien, sûr. Et sinon, ben, du coup, comme vous avez tous des analyses sportives super poussées et que je ne suis pas trop dans le bon tempo, je voulais juste mettre un carton rouge au monsieur qui a posé les sièges à la Beaujoire parce que franchement, ben, s'il a voulu écrire un truc en tribune, c'est raté. On n'arrivait pas à bien ce qu'il voulait mettre.
C'est étonnant. C'est étonnant.
Coup, c'était spécial. Donc, du coup, voilà. Thierry, si tu as posé les sièges, c'était raté. Désolé.
Thierry, ouais, c'est
on dirait un tifo raté.
Voilà. Ouais, non, je ne rebondirai pas.
En tout cas, on salue nos amis nantais parce que bon. Si nous on a vécu pas mal d'années de galère en tant que supporters sans et hors, j'ai l'impression que c'est un peu dur de leur côté. Donc voilà, si vous voulez des conseils pour gérer la dépression footballistique, vous pouvez nous parler à nous, on est disponible hein, au 06 08. Non, je vais pas donner mon numéro, mais sachez-le. On passe aux notes. Alors j'ai voulu noter Seko Fofana, c'est totalement orienté. Sylvain a l'air de me dire hors antenne qu'il avait pas trop aimé le match de Seko Fofana. Moi je trouve qu'il y a une vraie montée en puissance et une vraie régularité dans les prestations de Seko Fofana. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quelle note vous lui donnez sur ce match? Peut-être Fabien pour commencer.
Bah, moi je vais être sur ta ligne Thomas, j'ai bien aimé sa prestation. Je trouve qu'il est de plus en plus présent au milieu du terrain et ça fonctionne bien avec Cahuzac. C'est une assez bonne paire de milieux. Cahuzac est plus en retrait et lui ça lui permet de se projeter comme il sait faire et on l'a trouvé dans les transmissions, on l'a trouvé en appui, il est là dans les duels. Je mettrais un 6 ou un 7 voilà, entre les deux. Je suis pas fixé mais je l'ai trouvé plutôt bon hier. Ouais.
Et Johan parle d'un match moyen, il donne un match moyen, donc il ne donne pas note à Seko Fofana, mais il faut un petit peu regarder les stats. Seko Fofana vendange très peu ses passes hein, sur ses derniers matchs. Là, je crois que c'est 83% de passes réussies. Greg, quelle note tu lui mets? Alors, je suis allé prendre les notes de la Voix des Sports, je ne sais pas si c'est toi qui les as mis. J'ai un 6.
Pardon?
J'ai 6 dans la Voix des Sports.
Oui, c'est Philippe Leclerc et Richard Gott qui étaient hier à Nantes pour ce match, et effectivement, ils ont mis 6. Et j'ai. Pour pas vous mentir, voilà, même si j'y étais pas, on aime bien échanger aussi autour de ça après le match. J'étais d'accord avec eux parce que moi j'ai trouvé quand même qu'il a amené de la puissance. Alors il s'est un peu éteint en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'il était moins influent en deuxième mi-temps, c'est une évidence. Mais je trouvais que il pouvait casser des lignes. C'était l'homme fort du milieu de terrain à un moment donné en première mi-temps quand Lens avait cet élan. Alors je parle avant le penalty manqué par Gaël Kakuta, où il y avait un élan, ça manquait de fluidité dans le dernier geste et l'avant-dernier geste, on l'a dit. Mais moi, je trouvais que Fofana rayonnait un peu à ce moment-là. Ça a été un peu moins bon en deuxième mi-temps, mais moi, j'ai trouvé qu'il a fait un match intéressant. Et surtout, je pense vraiment que physiquement, et on sait l'importance de son niveau athlétique, lui, par contre, par rapport aux autres, il est en train de monter en puissance, voilà. Ça ne veut pas dire que tout est parfait dans son jeu. Il y a aussi, mais je trouve qu'athlétiquement, il prend de plus en plus de place.
C'est pareil, hein, j'aime bien regarder les votes du peuple sans heure sur l'application du RC Lens. Ça fait pas mal de matchs que Seko Fofana est dans le top 3 des joueurs les plus votés en tant qu'homme du match. Donc c'est aussi un signe qu'il est aussi de plus en plus accepté par les supporters. Et si on peut faire une comparaison directe sur le match d'hier, on a Touré qui a un peu un profil similaire au milieu de terrain du côté de Nantes. On a vu clairement la différence entre quelqu'un au milieu de terrain qui était en tout cas en ce moment dans une moins bonne forme qu'un Seko Fofana qu'on a vu plus décisif. Touré et Abed au milieu, c'était un peu plus difficile du côté du FC Nantes.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au match aller, il avait fait très mal au milieu de terrain. Ouais. Lensois, il avait été vraiment dominant.
Ouais.
Et ça a été beaucoup moins le cas hier.
Dire c'était un peu plus difficile. Hein. Sur YouTube, encore, on a Papy Gomis qui donne 6,5 pour Fofana. Beaucoup d'activité, cravache pour récupérer le ballon, mais de l'impact au milieu. N'hésite pas à monter dans la surface. Seul point noir, beaucoup trop de déchets dans la passe. Eh bien non, Papy Gomis, 83% de passe réussite. C'est une impression assez fou. Hein. C'est parce qu'en fait, ça fait partie de ces joueurs. On en a eu au RC Lens qui, quand ils ont le ballon, on a l'impression qu'ils vont le perdre. Mais en fait, non, ils ne le perdent pas. Greg, tu voulais rajouter?
Ouais. Ouais, non, mais pour cette histoire de stats, parce que je sais que tu t'appuies là-dessus, en fait, c'est surtout, on garde souvent des analyses sur une sensation générale, parce qu'il y a une ou deux passes qui ont été, qui ont été loupées. Ouais. Et à côté de ça, les passes de Fofana, elles prennent des risques. C'est un peu comme quand Kakuta, il prend des risques quand il fait des passes, parce qu'elles doivent casser les lignes. Moi, je me souviens d'un mec qui jouait en Pantou, qui s'appelait Clément Chantôme, qui était ici à un moment donné, il y a quelques années, on me disait, regarde, il a 95% de passes réussies. Ah, non, mais ouais, il faisait des passes, il jouait que sur les centraux, il tirait les coups francs à 50 mètres ou il faisait une passe à 2 mètres, il était à 95%, mais il n'était absolument pas influent, il prenait aucun risque, il cassait aucune ligne, il percutait pas.
La pré-retraite, quoi.
je dirais pas ça, mais voilà, je ne peux pas rentrer non plus, aussi loin. Mais ce qui est vrai, c'est que ces stats-là, notamment des passes réussies, il faut aussi des fois le mettre dans un contexte. Ouais, ouais. Et Fofana, qui réussit 83% de passes dans un match où lui, il est au cœur du jeu, il est toujours dans la percussion, etc., ce n'est pas exactement la même chose. On peut le faire quand on est un peu dans un fauteuil et qu'on joue à 3 mètres. À 3 mètres, voilà, à 3 mètres sur le coéquipier le plus démarqué. Donc, hier, oui, il a loupé des passes qui ont essayé de, en voulant changer d'aile notamment, 2-3 fois, c'est vrai. Et on garde que celle-là en tête, alors qu'en vrai, de manière générale, il a beaucoup plus réussi de choses qu'il en a loupé hier. Voilà.
Et ça, je suis bien d'accord. C'est important de remettre dans le contexte. C'était proposé par Greg Lannemann, La Voix du Nord, La Voix des Sports, et également Mon Cœur. Guillaume Réal qui nous fait un petit commentaire pour dire qu'il regrette de ne pas avoir la chemise orange. Ça, c'est qu'il l'a sortie il y a 15 jours, Greg, mais il ne peut pas la sortir à chaque fois.
Là, voilà.
Au bout d'un moment, elle est sale. Hein.
C'est
jour de fête. Et on a Léo qui dit 7 pour Fofana, ça me paraît bien. Ben voilà, c'est des bonnes notes. On va contrecarrer tout ça avec Sylvain qui n'a pas trop aimé le match de Seko Fofana. Je me trompe, Sylvain?
Ouais, tu te trompes complètement.
C'est vrai?
Parce que j'attends. Mais ouais, mais j'ai bien aimé. Mais en fait, j'attends énormément de Seko Fofana. Du coup, moi, s'il fait juste un bon match, je suis un petit peu sur la réserve. Je dis, oh Seko. Ah, voilà, je suis vraiment fan de ce qu'il peut apporter et tout. Et j'attends vraiment beaucoup, beaucoup. Du coup, je suis au taquet sur ça. Je l'engueule pendant le match et tout. Donc, si je dois lui mettre une note, je lui mets 8, comme son numéro. Franchement, impartial.
Voilà.
Non, mais vraiment, je. Bah, dans l'analyse un peu, là ça fait un peu groupie pour le coup, mais c'est vrai que j'aime bien ce profil de joueur, et quand j'ai vraiment envie qu'il apporte encore plus, et que les gens, par exemple, quand je dis des commentaires, il a coûté autant, mais il fait pas, enfin, vous voyez un peu le genre sur la twittosphère, donc les gens n'ont pas toujours, je pense, voilà, qu'ils voient pas le travail de l'ombre, le nombre de lignes cassées, le nombre de passes.
C'est des postes ingrats. Hein.
C'est des postes ingrats, exactement. Et du coup, non, vraiment, Seko Fofana, je suis fan.
Et il faut savoir aussi que moi, j'essaie de mettre à la place des supporters du FC Nantes. Je pense que hier, quand les supporters du FC Nantes voient l'équipe de Lens, ils disaient un Kakuta, un Fofana, on aimerait bien avoir ça dans notre équipe. Sam, là,
même un Chantom, il prendrait, je pense, en ce moment.
C'est possible. Sam, sur Seko Fofana.
Je vais être très clair avec vous. C'est difficile pour moi de donner une note parce que je n'ai pas vu l'intégralité du match, parce que j'ai dû aller commenter le match de l'autre équipe de la région face à Reims hier. Donc je vais pas me prononcer sur le match de Seko Fofana, mais sur le côté groupie de Sylvain, je comprends pourquoi.
Ouais. Moi aussi, je suis un petit peu de cette team-là, et moi, je suis ravi de voir que Seko Fofana arrive à s'imposer dans l'entrejeu sans Yor. On va parler d'une révélation de la saison. Greg Lallemand l'avait senti arriver en début de saison. C'est Ismaël Bourra qui, à titre personnel, m'a beaucoup impressionné hier et de plus en plus sur ses entrées. Donc, je voulais avoir votre ressenti. Donc, peut-être Fabien, est-ce que toi aussi, tu es impressionné par l'apport d'Ismaël Bourra?
Impressionné, c'est vrai qu'il fait des bonnes prestations à chaque fois qu'on fait appel à lui. C'est un joueur qui, malgré son jeune âge, ne semble pas impressionné par le fait d'évoluer en Ligue 1, et il occupe son couloir. Défensivement, il a des choses à améliorer, mais on peut compter sur lui pour bien défendre le côté gauche, et dès qu'il peut, il propose une solution vers l'avant, donc il remplit pleinement le rôle de piston qu'on lui assigne. Donc je lui mettrai un 6. Je mets qu'un 6 parce qu'on n'a pas gagné, mais c'était un bon match de la part de ce jeune joueur.
Sam, sans forcément te demander une note.
Non, il n'y a pas de souci. Sur Ismaël Bourra, c'est vrai que j'ai beaucoup défendu Issega Silla depuis le début de la saison, et je continuerai de le faire quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que je dois reconnaître que Ismaël Bourra, il marque de plus en plus de points. Je voyais qu'il a, là, c'était son 6e match comme titulaire. Silla, on a joué 10 au poste de piston gauche, et à Idara, on a joué 3. Après, bon, il a joué davantage en défense centrale, mais je trouve qu'il apporte il a une vraie qualité de pied que n'ont pas les deux autres, une qualité de centre que n'ont pas les deux autres, et défensivement, en fait, il tient relativement bien son couloir également. Donc, il est en train de prendre de l'épaisseur, il est en train de prendre de l'ampleur, et je serais pas surpris qu'il finisse par gagner le combat qu'il oppose à Issega Silla d'ici la fin de la saison, que ce soit peut-être lui qui joue un poil plus d'ici le mois de mai, quoi, d'ici la fin du championnat.
Et heureusement pour Macedo Edira qui a une petite différence du côté de Medina, sinon il n'aurait pas eu une minute de jeu à jouer parce que l'arrivée de Bourran s'attendait peut-être pas. On a Guillaume Réal dans le chat qui nous dit il s'impose, on a l'impression qu'il est là depuis 6 mois, c'est plus qu'une option. Depuis 6 mois, j'imagine que vous voulez dire un peu plus. Et on a Léo qui dit Isma Boura, il apporte beaucoup, il a juste quelques trucs à améliorer défensivement, mais c'est vraiment pas mal. Greg, c'est vraiment pas mal Ismaël Boura?
Ouais, c'est pas mal. Et tu vois, tu disais que je disais en début de saison qu'il allait réussir. En vrai, honnêtement, moi j'étais plutôt, surtout au mois d'août, mois de juillet, à me dire oh, ce garçon, il a du talent, parce que moi je l'ai vu en N2 plein de fois. C'est quelqu'un qui est assez basique dans sa manière de jouer, qui va très vite et qui s'entraîne. Là, il a vachement évolué. Mais moi, je me disais, allez, se faire prêter en national, un peu comme Tom Ducrot qui est parti à Bastia, ou aller en Ligue 2 pour prendre du temps de jeu, c'est ce qu'il lui faut. Et Ismaël Boura, franchement, j'aurais jamais cru que ça puisse aller aussi vite pour lui. Là, vraiment, je suis estomaqué par sa qualité, sa capacité d'adaptation si rapide au niveau tactique, au niveau technique, et surtout, j'ai l'impression que Franck Hez lui a amené, Franck Hez qu'il connaît bien, hein, parce que Franck Hez l'a eu en N2 quand même longtemps, il en avait fait son capitaine à un moment donné, donc il le connaît bien, et je crois que Franck Hez lui a amené une sorte de lucidité dans le jeu où là, bon, en fait, il est dans une équipe qui a beaucoup le ballon aussi, hein, donc il y a une forme de maîtrise autour de lui. Et il est vraiment, vraiment intéressant, et pas que sur le plan offensif d'ailleurs, parce qu'on le voit, comme il est assez tonique, on le voit beaucoup déborder, etc. Moi, défensivement, je le vois rarement pris vraiment par son attaquant. On verra peut-être, même si moi, je pense qu'il ne sera pas titulaire à Marseille, mais je peux me tromper, j'ai aucune info là-dessus, c'est juste un sentiment. Je pense que ici, Agassi-là jouera peut-être pour l'alternance, et aussi parce qu'il va falloir bloquer Thauvin et mettre peut-être un peu d'impact dans la zone de Florian Thauvin. Mais franchement, défensivement aussi, Ismaël Boura, il tient la route pour l'instant et il est en progrès constant, donc c'est vraiment intéressant.
Ça fait plaisir ces joueurs hein, qu'on n'attendait pas forcément. On a Julien sur le chat qui nous dit la concurrence des pistons, Klaus Michelin et Sylla Boura est plus que positive. Je ne peux qu'abonder dans son sens. Et on va terminer par Sylvain sur Isma Boura. Toi, tu lui mets quelle note et quel est ton avis sur lui?
Au niveau de la note, peu importe, finalement, je lui mettrais 7. Si son coup franc avait trouvé preneur, on mettait 8.
Ouais, il aurait pu marquer même, hein, à un moment
donné. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais plutôt, j'ai envie de remettre en lumière le fait qu'il a énormément progressé, je trouve, depuis le début de saison. Ouais. J'ai la chance de le voir de très près quand il est dans son couloir à Bollard. Et même dans ses déplacements, tactiquement, dans ses appels, il a vraiment pris de l'épaisseur dans cet aspect du jeu, je trouve. Même au duel, ses premières apparitions, on sentait plus timoré et j'ai vraiment le sentiment qu'il prend confiance. Et c'est vraiment solide pour son âge et tout. Franchement, on peut être que satisfait d'avoir encore un produit qui vient de là, quoi. Enfin, qui vient de chez nous, quoi. Enfin, voilà, c'est bien d'avoir des jeunes, d'emmener des jeunes à ce niveau-là, quoi.
Il y a un hashtag qui est né, un numéro pour Boura. Voilà,
oui, exactement. Comme note, on lui met 33. Ouais, 33, sa note. Voilà, minimum.
Greg, pour conclure.
Ouais, je conclue vite fait là-dessus. Et parce que Sylvain, il dit quelque chose de très vrai. Lui, il voit les matchs. Alors, nous aussi, on voit les matchs au stade. Mais lui, il est en plus au ras du terrain. Alors, moi, c'est juste au-delà d'Ismaël Boura. C'est quand j'entends les joueurs de Ligue 1, il n'y a pas d'intensité. C'est des choses qu'on entend tout le temps. Mais quand vous avez la chance, comme nous, moi, ça m'arrive aussi à la Gaillette, notamment au début de saison sur des matchs amicaux, donc avec en plus une intensité légèrement moindre, on ne se rend pas compte de la dépense d'énergie que nécessite un match de Ligue 1. On ne se rend pas compte des sportifs de très, très haut niveau, vraiment.
Voir le front Kakuta au bout de 2 minutes de match. Là, on s'en rend compte un petit peu.
Oui, voilà. Et moi, j'entends tout le temps, ouais, en Ligue 1, il n'y a pas d'intensité, les mecs, ils ne se donnent pas à fond, ça ne va pas vite. Mais Sylvain est certainement dans l'une des plus belles places pour voir ça, lui, de près, parce qu'il aura du sol. Je peux vous dire que quand ça déborde et quand vous entendez les bruits de l'impact, vous ne pouvez pas dire que ces mecs-là ne donnent pas tout, que c'est pas ça ne nécessite pas du boulot quasiment plus que quotidien. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose quand j'entends ça, ça me rend fou, parce que vraiment, quand on voit les matchs et quand on voit l'investissement, quand on voit même les entraînements, quand on les voit de près, et c'est notre chance, évidemment, c'est vrai, et c'est vraiment...
Les gens ne voient plus les matchs, malheureusement, Greg. Hein. C'est ça le souci.
Oui, mais en fait, je pense vraiment que notre œil a un peu évolué. Regardez des matchs il y a 15 ou 20 ans. Ouais. Regardez comment.
Ce qu'il dit, Greg, est très vrai. Hein. J'avais pas du tout cette vision-là du truc, hein, mais vraiment. Bon, déjà, je revoyais pas les matchs toujours. J'étais pas toujours dans le bon sens, on va dire.
Ouais, c'est ça. Je ne voyais pas du tout les matchs.
Après, quand je suis venu, bon, je suis un peu plus haut en tribune. Voilà, j'ai rarement eu l'occasion d'être aussi proche du. du contact et des duels et de l'impact et de l'intensité. Et ce que dit Greg est extrêmement vrai. C'est vraiment quelque chose que je n'avais pas assimilé vraiment. Là, je le vois. Et pour avoir vu Nicolas Palois de très près, il est très, très baraqué. Je voulais rebondir là-dessus, mais c'est vraiment une belle bête. Et d'ailleurs, je pense aussi par rapport au match, tiens, je reviens sur le match, que Sotoka est très gêné par Nicolas Palois, je pense. Et c'est pour ça qu'il a énormément, je pense, dézoné, qu'il a pris les côtés, tout ça. Et je pense que Palois le gêne beaucoup, parce qu'il va être vachement chiant.
En tout cas, je suis très étonné, mais le débat sur Ismaël Bourra a déchaîné les passions dans le chat, et tant mieux, les gens attendent ce joueur. Il y a Amaury de Monchot, chroniqueur de Culture Sonore, qui dit 10 matchs en pro pour le numéro, donc apparemment, ça ne va pas tarder. Ça va pas tarder. Et qu'est-ce qui va pas tarder non plus? C'est l'arrivée du quiz de Culture Sonore. On passe à la mi-temps. Alors, c'est le quiz, un quiz un peu spécial. J'ai promis de faire un lien entre Raymond Domenech et le RC Lens. Du coup, je vais vous demander la composition de l'équipe entraînée par Raymond Domenech. Non, la dernière fois que le RC Lens a affronté une équipe entraînée par Raymond Domenech. Déjà, vous vous en souvenez, en championnat, quand est-ce que c'était?
C'était Lyon, probablement.
Lyon, en le 22 mai 1993. Lyon-Lens. Le score, vous l'avez ou pas, non?
Lyon-Lens, 93.
Ouais, le 22 mai 93.
Ah, cette victoire en face.
C'est 3-1 pour Lyon. Voilà.
T'étais pas loin.
3-1 pour Lyon. Et je vais vous demander la composition.
Dans tes standards.
De départ. Hein, la composition de départ. Donc les remplaçants, ce sera perdu si c'est un remplaçant. On commence par. Allez, Fabien, désolé de te mettre dans.
Ouais. je vais dire. Eric Sikora.
Eric Sikora, évidemment. Sam.
Alors. Ce qui va suivre, on n'explique pas pourquoi je vais perdre ce quiz, mais un petit peu quand même. il se trouve que j'ai commencé à suivre le Racing en 94. Mais c'est pas grave. Je vais tenter Francis Gillot.
Francis Gillot, non, pas Francis Gillot, il n'était pas là. C'est perdu, c'est dommage. Sylvain.
Wallem.
Wallem, il n'était pas titulaire, malheureusement. Désolé, c'est perdu aussi pour Sylvain. Greg.
Alors, rappelle-moi la date, s'il te plaît, j'ai pas bien entendu. C'est
22 mai 1993. C'était un samedi, 20h30, environ 17 degrés.
C'est nous qui prenons 93, d'accord. Bon, il y a Guillaume Armuse.
Évidemment, Fabien.
Bolli, Roger.
Roger Bolli, ouais. Greg.
Je vais dire Cyril Magnier.
Cyril Magnier, Fabien.
Jean-Marc Adjovi Boko.
Eh oui, Greg.
Et du niveau là.
Ouais. Ah
ouais. J'aurais bien tenté Hervé Arsène.
Eh ben oui, ça vient.
Pierre Lègle.
Et il est rentré à la 77e. Je suis désolé de te faire barre là-dessus.
J'ai de la chance parce que c'est ce que j'aurais dit aussi. Donc,
Et Greg, pour confirmer ta victoire.
Alors 92-93. Bref, j'ai envie de tenter. Attends, parce qu'il faut pas que je me trompe. J'aurais envie de tenter Mustapha El Hadaoui.
Eh ben ouais. Oui, il y était à 31 ans, il jouait, Mustapha El Hadaoui. C'est une victoire confirmée par Greg.
On a tout le monde.
Eh oui, ça.
Donne le rang du 11.
Alors le 11.
Slater.
Slater, ouais.
Il y avait François Omambik en attaque.
Ah oui.
Jean-François Perron.
Perron.
Frédéric Joly,
ouais, c'est bon.
Hervé Arsen, Adjoli Boko, Magnier, Dubois, Sikora et Varmuse. Voilà, c'était un petit quiz, comme j'aime à l'appeler, un petit quiz de petit enfoiré. Voilà, c'est ça que j'ai placé.
Un petit quiz de derrière les fagots.
Voilà.
Est-ce que tu peux rappeler le nom du
joueur? Je les avais tous. Pourquoi j'ai dit Wallem? Mais il était où Wallem ce soir-là? Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais avoir une explication quand même. C'est-à-dire, je les avais tous. Je me dis, je vais jouer sécurité, je mets Wallem. Et voilà.
Moi, j'avais mis Wallem et l'aigle, et finalement, vous vous êtes trompé pour moi. Merci à vous.
Voilà. Bon, allez, on va passer à la seconde mi-temps de cette émission de Culture sans rire. C'est parti pour cette deuxième mi-temps après un quiz riche en émotions. Greg qui lève le doigt.
Juste une question parce que je m'en souviens plus. Vous pouvez rappeler le vainqueur du quiz rapidement?
Greg, Grégory Lallemand de La Voix du Nord, La Voix des Sports.
Bravo.
Voilà. C'est l'homme à la chemise jaune, couleur inidentifiable. On passe à l'interview de Sylvain Lemoine, aka Sylvano. Tu es donc avec Karine depuis ce début de saison, le nouveau speaker, donc qui forme un duo avec Karine du Stade Bollaert. Alors, un Stade Bollaert, malheureusement, que tu n'écoutes pas si c'était meilleur ce speech.
J'ai connu plus hystérique.
Plus plein, plus animé. On va parler un petit peu de ton passé. Avant de parler de toi en tant que supporter sans et hors, je pense qu'il y a une question que tout le monde se pose. C'est quoi concrètement être speaker? Parce qu'on le voit bien, c'est la personne qui donne les compositions des équipes, qui hurle quand il y a but, qui essaie de chauffer un peu le public. Mais c'est quoi concrètement d'être speaker?
Alors, c'est quoi d'être speaker? Alors déjà, je suis tout frais dans la profession. Je suis un rookie. Alors là, ouais. Je vais peut-être pas avoir tous les bons termes, mais comme on l'avait déjà demandé, je pense qu'il y a un petit côté, on doit être le trait d'union entre le public et la pelouse. Ouais. Pour moi, ça part un petit peu de là, de début. Et c'est pas uniquement venir au stade à 20h et puis crier les noms des joueurs. Et puis voilà, il y a un petit boulot en amont. On doit se présenter, on doit se rendre au stade en général 3 heures avant. C'est-à-dire là, on est un petit peu plus forcément, on a moins d'animation à mise en place, etc. Ouais. Mais sinon, c'est ça, c'est venir 3 heures avant. C'est se rencarder avec Karine et faire l'avant-match, préparer s'il y a des hommages à faire, s'il y a des speeches à faire, découvrir le conducteur du match. Là, c'est Karine qui met ça en place. Karine, c'est ma collaboratrice, mais tu vas très bien expliquer, Thomas. Et, donc, Karine met en place le conducteur dans la semaine et on se retrouve avant le match. Et là, on a un conducteur minuté, seconde par seconde, à tenir du moment où on prend le micro jusqu'à le moment où les gens quittent le stade, en fait. Voilà, c'est un peu ça.
Silvano, je ne sais pas si tu es au courant de cette info. Je vais peut-être te donner un scoop énormissime. Tu sais que il y avait plusieurs personnes en concurrence pour devenir speaker et en finale, bah, j'y étais. Voilà.
Du coup, ils t'ont confondu.
C'est ma théorie pour dire que je n'ai pas perdu et que voilà. Non, mais du coup, la première fois que je t'ai entendu, je me suis dit j'espère qu'il ne va pas être bon et qu'on va venir me chercher. Mais en fait, le problème, Sylvain, c'est que tu es bon. Alors du coup, c'est un peu emmerdant, mais en tout cas, donc félicitations pour m'avoir battu en finale, je suis à le dire.
Félicitations à toi pour être en finale aussi.
Ouais, mais bon, voilà. Je me suis incliné parce qu'on va parler de ton passé de supporter, hein. T'as autrement fait tes preuves que moi en tant que supporter du RC Lens. Et il y a Chtioko qui dit « Silvano, trop hâte de t'entendre dire la compo du RC Lens lors du derby » et on a clairement hâte. Ouais, Sam ?
Non, mais alors justement, je lui ai déjà dit, mais j'ai connu Silvano à l'époque Capo. Ouais. Donc moi j'étais adolescent, j'avais 14-15 ans en Marek, c'était un truc de taré. Hein. Quand il était capo, c'était un truc de fou. Il avait une capacité pour emmener la Marek, c'était impressionnant. Moi j'avais 14 ans, j'étais fasciné par Silvano, l'énergie qu'il mettait pour haranguer la foule, pour faire chauffer toute la Marek et tout le stade, c'était vraiment impressionnant. Donc moi, enfin, je trouve que, enfin, sauf ton respect, Thomas, je trouve que le club a fait avec Sylvain. Et c'est vrai que, enfin, moi, j'attends qu'une chose, enfin, pour toute une série de raisons, mais c'est d'avoir 38 000 et quelques à Bollard pour le voir à l'œuvre aussi.
J'attends qu'une chose, c'est que Sylvain est une gastro et que du coup, je puisse faire un remplacement juste une fois, tu vois, pour le vivre une fois, parce que là, j'ai juste fait les essais dans un stade vide. Mais voilà, la demande est passée. Greg, vas-y ta question.
Ouais. Moi, je connais un peu Sylvain aussi. Hein. Je l'ai croisé quelques fois au stade depuis que je vais voir des matchs à Bollard. Non, mais ouais, c'est quand même un choix qui est fort. Et surtout, il permet. On rappelle, Sylvain, il est supporter de Lens depuis 1986. Ça veut dire qu'il connaît, il connaît les murs. Il connaît et au-delà des murs, qu'il a évidemment, Sam l'a très bien dit, c'est quelqu'un qui était capable d'emmener. Que ce soit évidemment la tribune Marek, mais aussi les parkages à l'extérieur. Il connaît les gens presque visuellement. C'est-à-dire qu'en fait, il a ce contact direct. Les gens savent qu'il est là parce qu'il est supporter de Lens. Voilà, c'est pas. Il y a ce lien fort. Et surtout, je pense que les soirs de match, quand on aura tous la chance de vivre des matchs normaux, dits normaux, il a ce réflexe. Il a fait des tifos. Voilà, c'est un mec qui a géré des mises en place de tifos depuis la grille. Et donc ça, c'est des réflexes, des codes qui sont très particuliers. Et il aura forcément un avantage sur tous les speakers de France et de Navarre.
Pour moi, Greg, je ne sais pas si tu vas rebondir, si tu vas aller dans mon sens, mais c'est assez symptomatique de la nouvelle direction du RC Lens qui a bien compris que les supporters étaient au cœur de ce qui se passe. Et mettre Silvano, c'est une vraie représentation des supporters. Quoi.
Je pense qu'il faut de la compétence à peu près partout pour que ça réussisse dans un club. C'est le credo de la nouvelle direction. Et aussi, dans cette représentation hyper importante qui est bimensuelle, en tout cas quand, tous les 15 jours à Bollard, du mec qui va emmener des tribunes, qui en plus quand elles vont revenir, elles seront chaudes, bouillantes. Mais moi, connaissant Sylvain depuis encore une fois très longtemps, je pense qu'il doit être un peu frustré, j'imagine, en ce moment, parce qu'il avait imaginé les choses différemment. Mais ça peut être un truc vraiment terrible. Et en plus, avec Karine, voilà, ils vont trouver leur. Je suis persuadé qu'ils vont trouver leur. Voilà, leur rythme de croisière et que lui va vraiment s'éclater dans ce rôle. Voilà.
Je vais poser une question de nos viewers, mais avant ça, moi, j'ai envie de dire, c'est un peu là, t'as la possibilité de t'entraîner vraiment à froid comme ça, t'as un an d'entraînement et puis comme ça, ça va exploser encore plus après. C'est quoi ton meilleur souvenir de capot et ton plus grand rêve en tant que speaker? C'est Yann qui pose la question sur le chat.
Bah, il y a plusieurs aspects. Plusieurs aspects, quoi. Il y a le côté perso où je pourrais dire ouais, c'était bien d'un point de vue personnel, j'ai trouvé ça bien. Et après, il y a le côté collectif que j'ai toujours tenu à mettre en avant et à tenir. Je trouve que c'est plus important. Et, il y a forcément le match de Bordeaux qui revient sans cesse à chaque fois, on m'en parle. Ouais. Le match de le quart de finale qui avait vraiment une saveur très très spéciale pour diverses raisons, la façon dont ça s'est déroulé, la façon où le match a été amené. Moi, je montais plus à cette époque-là. Ça a été plus ou moins. Je suis arrivé au stade, j'ai cru comprendre que je devais monter. J'avais pas trop le choix. On m'a dit si tu montes pas là, enfin voilà. Moi, j'avais pas prévu de monter sur ce match. Et puis,
c'est juste pour ceux qui nous regardent, vous savez, mais monter, ça veut dire aller sur
à la grille, voilà, ouais. La grille, enfin, ouais. Être sur le perchoir.
Ouais, voilà.
Donc Il y a ce match-là, bien sûr, parce qu'en plus, l'ambiance a été très
exceptionnelle.
Mais par rapport à ce match, par exemple, je n'ai pas l'impression d'être un vecteur très important du match, quelque part, parce que le match, l'ambiance de Bollard, l'idéal, c'est qu'elle n'ait pas besoin d'un capot ou qu'elle n'ait pas besoin de quelqu'un. L'idéal, c'est ça. Ouais. C'est, d'un point de vue technique, c'est moins le capot a de travail, mieux c'est. Et ça, je pense que c'est la même chose pour dans le rôle de speaker. Là, on parle de capot parce que c'est deux choses différentes. Hein. Je pense qu'il faut aussi faire la part des choses. Parfois, là, quand vous en parliez, vous parliez de mettre le feu et tout aux tribunes, mais c'est pas comme ça que je conçois le rôle du speaker. Il y a les capots pour mettre le feu au stade et tout ça. Et le speaker, je trouve que c'est un autre rôle un petit peu plus.
Et t'as un petit peu vu sur les premiers matchs où il y avait un peu de supporters.
Ouais.
Un peu insufflé du capot dans le speaker, un petit
voilà,
peu.
Voilà, exactement. Et c'est justement quelque chose qui me faisait peur, en fait, de pas réussir à bien distinguer mon rôle tout de suite. Et j'ai pas pu m'exercer beaucoup, beaucoup.
Ça crée de la peur quand même.
Mais je me suis senti vachement plus à l'aise, par exemple, contre Bordeaux, où j'ai trouvé des mots plus justes, où j'ai trouvé. Enfin voilà, j'avais trouvé une meilleure répartie, une meilleure approche du match, et de l'avant-match surtout. Et du coup, c'était quoi les questions? Le meilleur souvenir.
Voilà, bah Bordeaux, c'est une bonne réponse là.
Ça peut passer en bonne réponse, je pense. Les matchs de Coupe UEFA aussi. La grosse épopée UEFA, où là, c'est encore quelque chose de très très spécial d'un point de vue. Après, il y a le match contre le Milan AC, parce que moi, j'ai grandi avec le Milan AC, de Ruud Gullit devant de Basten, et les voir venir à Bollard. Oui, c'est pour toi, Fabien. Aller voir venir à Bollard, en mettre la fessée. Enfin, voilà, je me souviens avoir pleuré le soir même sur la grille, j'étais en larmes. Enfin, voilà, c'était très, 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 très grosses émotions. Et puis sinon, je penserais au jubilé Roger Bolli, qui a une grosse histoire, un très, très gros background, ce match. Pour diverses raisons aussi, là. Et c'est un match qui restera très, très longtemps dans mon esprit. Et c'est un match important dans mon histoire personnelle et dans l'histoire de Lens en général. C'est peut-être un peu vantard ce que je vais dire, mais dans l'histoire des tribunes de Lens, je pense que le jubilé Roger Bolli a son importance.
Bien sûr. Rappelez que c'est au cours de ce match, donc c'est en avril 2001, mai 2001, c'est au cours de ce match que, pour la première fois, les Ultras, et notamment les Red Tigers, se sont regroupés au centre de la Marek avec le reste du COP, alors qu'avant ça, il y avait des tensions un peu latentes. Et ça a été le début, probablement, de quelque chose. Et après, le collectif Tony Marek est arrivé, voilà. Mais il y a eu une union un peu des supporters.
Il y a eu plusieurs étapes, effectivement. Greg a raison de le souligner. On commençait déjà à se rencontrer un petit peu en amont. On avait commencé à décaler le bloc Tigers vers le centre, etc. Et c'était vers ça qu'on voulait tendre. Et ça a été une preuve qu'on pouvait le faire ce soir-là. Du coup, c'est important. C'était important.
Et ce que dit Sylvain, juste une chose, c'est que c'est bien aussi d'avoir des speakers. Moi, nous, on a la chance d'aller dans dans tous les stades de France, où des fois, les speakers ont une place presque trop grande. C'est-à-dire que savoir que Sylvain lui a connu l'autre côté, où des fois, les speakers, ils sont aussi parfois il freine l'ambiance à être omniprésent. Savoir se taire aussi, en fait, dans ce rôle-là, ça peut être important. Et ouais. Donc, avoir cette vision très équilibrée de faire son boulot et en même temps laisser vraiment le stade vivre son truc. Voilà.
Parce que le stade aura toujours la priorité de toute façon. Enfin, ouais. Dans mon esprit, c'est comme ça. C'est comme ça. Enfin, c'est après, je n'ai peut-être pas la science infuse à ce sujet parce que je débute. Mais pour moi, le stade aura tout le temps la priorité. Ça, c'est une certitude.
Et on va poser la dernière question du chat. C'était Jean Connery qui demandait est-ce que bah voilà, ta frustration, comment tu la gères tout simplement?
C'est super dur, mais vraiment. C'est vraiment très très dur de se dire que je suis en train de vivre quelque chose de fou et que la situation le rend encore plus fou du côté négatif. Quoi.
Ouais.
Moi, je sais bah, par exemple qu'avec Karine, elle me dit bon, bah, c'est plus forcément, on n'est plus forcément obligé de venir longtemps avant, mais. Ben moi, j'ai besoin d'aller avant, quoi. Enfin, j'y vais quand même 3 heures avant et je traîne dans la tribune. J'aime bien, enfin, voilà, j'aime bien m'imprégner de Grégory en parlait, des murs de Bollard. Ben, c'est exactement ça, quoi. J'aime bien être là, voir le truc se mettre en place. J'aime ressentir le. Ben, Bollard, c'est notre. Enfin, voilà, c'est notre vieux Bollard. Quoi. Et quand j'y vais, ben, je sais pourquoi je suis là et c'est extrêmement frustrant, effectivement, de. Voilà, parce que même le match de Paris, au-delà de ça, il y avait 5000 personnes et bah voilà, j'avais les frissons, quoi. C'est vraiment fort et j'ai qu'une hâte, là, c'est qu'on puisse repasser avec un petit peu de public, même 5000, 9000, 10000, qu'on puisse au moins avoir une interaction, quoi. Avoir un petit quelque chose. Là, quand Karine m'a dit la première fois, bah, faut quand même venir, parce que bah, moi, je pensais qu'on allait mettre en stand-by le truc, en fait. Je m'étais dit, bon, bah, il n'y a plus de public. Et elle me. Bon, on a échangé avec Karine et elle dit, la ligue. Souhaite que la compo soit faite, etc. Donc il fallait aborder le truc d'une autre façon parce qu'après, bon, bah, t'y vas, t'es là, tu pourrais te dire, bon, ça n'a pas trop d'intérêt, mais je pars du principe où, bah, si on est là, il faut faire les choses avec le cœur, le faire avec envie, et donc, bah, je fais la compo tout seul, et voilà, mais je sais que ça fait sourire des gens, je vois, il y a les ramasseurs de balles, bah, ils sourient parce que je mets certaines interventions, enfin voilà, j'essaye d'amener quelque chose quand même, malgré ouais, tout.
Il y a quand même quelques personnes dans le stade, il n'y en a pas énormément, mais voilà, il faut bien
ouais,
les.
Vraiment pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Il y a parfois Sam et Greg l'Allemand qui sont là, mais
voilà. Oui, c'est vrai, d'ailleurs, je les vois. Une fois, je voyais Greg de temps en temps, mais après, ça se fait plus, on se voit plus.
En tout cas, Sylvain, ça fait plaisir de voir, voilà, je rappelle, Sylvano Baguette, pour ceux qui se souviennent, voilà, de ce duo de choc en haut du perchoir. Ça fait plaisir de te voir, on a hâte de te voir au milieu de 40 000 spectateurs.
Et moi donc.
Et on te souhaite évidemment de t'éclater hein, encore plus qu'aujourd'hui dans cette aventure. De toute façon, ça va aller que de mieux en mieux. On va nous s'intéresser au match de ce mercredi à 21h, Marseille-Lens, ce fameux match qui a mis très très longtemps à jouer. Et ça y est, c'est ce mercredi, puis on va vite retrouver Marseille début février. Donc vraiment, on va s'enchaîner l'OM sur 15 jours là. Qu'est-ce que vous attendez de ce match, Sam, pour commencer?
Ouais, je vais être ambitieux, je vais dire 3 points.
Ouais.
Je vais dire 3 points parce que je pense que c'est un très bon moment pour jouer Marseille. Les Marseillais ont fait une super première partie de saison. Ils ont pris de mémoire 27 points en 12 matchs. Et là, ils sont vraiment en délicatesse depuis 6 matchs. Ils gagnent plus. Ils ont gagné, je crois, une fois en 6 matchs. On sent qu'il y a une crise larvée ou peut-être même pas larvée d'ailleurs dans ce club-là. Alors, vous allez me dire, non, c'est aussi une équipe qui est en difficulté en 2021. Mais je pense que voilà, c'est le moment de réaccélérer. D'autant qu'il y a possibilité de passer 2-3 équipes là, ça se bagarre et puis évidemment il y a encore beaucoup de matchs derrière, mais il y a moyen vraiment de taper un grand coup sur la table. Alors pour ne rien vous cacher, j'espérais que ça allait être le cas à Nantes. Bon, les supporters et les observateurs quelque part doivent se contenter d'un match nul pour le RC Lens, mais voilà, je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose de très bien à Marseille et voilà, j'ai l'impression que tous les ingrédients sont réunis et du côté de Lens et du côté de Marseille, malheureusement pour eux.
Bah, moi, je vais pas être comme ça, mais j'attends pas forcément un résultat. D'ailleurs, j'attends jamais avant un match une victoire, un nul ou une défaite. Je vais me concentrer sur le contenu et là, c'est un super match à jouer puisque Marseille va pas jouer comme Nantes a pu le faire ou comme Metz l'a fait contre nous. C'est-à-dire que c'est une équipe qui va chercher à prendre le ballon, à faire le jeu et à nous imposer sa loi. D'autant plus qu'elle est elle semble connaître un début de crise, comme disait justement Sam. Donc, les joueurs vont être amenés à réagir et à nous bousculer. Et je pense que dans ces conditions-là, on est bien meilleur que dans les conditions qu'on a connues à la Beaujoire. Et j'attends de Lens bah, qu'elle soit debout et qu'elle réponde avec ses forces en présence aux attaques, enfin aux attaques marseillaises. Et je pense qu'on peut tirer notre épingle du jeu contre une équipe de Marseille en proie au doute, et on peut retrouver des couleurs avant le match ô combien important de Nice samedi prochain.
Samedi, ouais, parce qu'on enchaîne pas mal en ce moment. On a Léo qui dit espérons ne pas perdre surtout, et Lens est très bon face au gros club, donc pourquoi pas les 3 points. Et on a Guillaume Réal qui dit ça va être le remake de Monaco Lens, vous l'aurez lui ici en premier, le débrief dans la Voix des Sports. Ouais. C'est ce qu'il nous propose. Sylvain, qu'est-ce que tu attends de ce match?
Qu'on confirme un peu le résultat nul de Nantes, quoi. Par partir sur une défaite et puis ensuite revenir à Bollard en espérant gagner pour pas se faire peur. Ça serait bien de rester sur une série un peu de reprendre un peu de vitesse, reprendre de l'allant. Et une victoire, ça serait top, bien sûr, mais c'est toujours compliqué de jouer à Marseille. On sait le contexte marseillais, etc. Et puis dire qu'ils sont en crise, bah, c'est comme ça à chaque fois qu'on y va, j'ai l'impression. Donc ça compte plus vraiment, quoi. Enfin,
c'est pas faux, ça.
C'est ça, tous les gens, il y a un truc. Mais... Donc, ouais, essayer de rester sur une bonne dynamique pour recevoir Nice, qui sera un match très important, je pense aussi, parce que Nice est sur une très mauvaise série. Donc, ça serait bien de les mettre la tête sous l'eau, les Niçois, pour aussi être tranquille avec ça. Donc, j'espère un résultat positif à minima et puis enchaîner avec Nice, quoi. Pour tout ça.
Et Greg ?
Ouais, alors moi, je sais pas, je pense que ce sera un match compliqué pour le RC Lens, mais en vrai, j'étais au Trophée des Champions la semaine dernière. Moi, j'ai géré le match entre Marseille et Paris pour la Voie du Nord à Bollard. Si c'est le même Marseille qui est à mercredi, y a vraiment un truc à faire, parce qu'en plus, en conférence de presse, après, André Villas-Boas dit clairement on a fait un bon match, un des meilleurs matchs depuis très longtemps.
Ouais, il est pas mal dans le déni, VB.
Non, mais j'avoue que moi j'étais stupéfait, parce que du coup j'en ai parlé à mes confrères de Marseille, de France 3, pour le coup France 3 à Provence, qui était là. Il me dit non, mais en plus il a raison, c'est vrai que c'est l'un des meilleurs matchs qu'ils ont fait. Et j'avoue que j'ai été vraiment étonné par leur manque d'idées, hormis des accélérations de Florian Thauvin. J'en parlais un peu tout à l'heure, hormis peut-être fulgurance de Payet sur un coup de pied arrêté. Et moi, je trouvais que cette équipe, elle était d'une faiblesse. Et en plus, Paris jouait pas un super match non plus. Si c'est le même Marseille mercredi soir et celui qu'on a vu d'ailleurs contre Nîmes aussi ce week-end, il y a évidemment un coup à jouer. Je pense par contre que les Marseillais vont se faire un peu rentrer dedans avant ce match, et sortir du Vélodrome avec un point serait déjà une très très bonne performance pour le Barcelone vu le contexte.
Eh bien, on va passer au pronostic. Alors, c'est rigolo, c'est que maintenant, les pronostics sont plus perdus dans l'espace-temps. Les pronostics, on les redonne sur notre Twitter, donc @culture100etor. Et la semaine dernière, oui, Grégory, je vois que tu fais un geste de... Voilà, tu as parié un partout entre Nantes et Lens.
Moi aussi, monsieur l'Allemand, j'ai mis un partout sur l'application et j'en fais pas toute une histoire. S'il vous plaît, un peu de tenue, monsieur.
On a Guillaume Varmus la semaine dernière qui avait également parié un 1. Antoine de partout, donc il n'était pas loin. Amaury avait parié une défaite. Bah, vous voyez, Amaury n'est plus des nôtres aujourd'hui. C'est comme ça qu'on se passe.
Il ne reviendra plus d'ailleurs.
C'est décisif. Donc faites attention à ce que vous allez dire, vos pronostics pour ce Marseille-Lens. Allez, Greg, on commence par toi.
2-0 pour l'Olympique de Marseille.
Fabien
2-2.
2-2. Sylvain
1 partout.
Et Sam
3-1 pour Lens.
3-1 pour Lens. Voilà. Tout ça, vous le retrouverez sur le Twitter de Culture 100 et Or. Et la semaine prochaine, soit je vous féliciterai, soit je me foutrai de votre gueule. Enfin, pas la semaine prochaine, jeudi prochain, pardon. Je vous remercie tous d'être venus encore une fois, Sam, Greg et Fabien. Cette équipe si douée, toujours au rendez-vous pour parler du RC Lens. Sylvain, on te remercie d'avoir accepté l'invitation. On serait ravis.
Merci à vous pour l'invitation.
Bah, avec grand plaisir, Sylvain. On serait ravis de te revoir ici dans Culture 100 et Or. En tout cas, on sera ravis de te voir à Lens devant nous pour faire joliment ta nouvelle occupation de speaker. Je voudrais féliciter également tous ceux qui gèrent cette émission. On est de plus en plus nombreux dans l'équipe, la famille Culture 100 Heures. C'est impressionnant ce qu'on est en train de devenir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur les plateformes, que ce soit en direct, Facebook ou YouTube, mais également sur les podcasts, donc sur les applis de podcast. On est dispo partout pour le podcast Culture 100 Heures. Et je vous invite encore une fois à aller sur culture100etor.com, parce qu'il y a plein d'articles qu'on est en train d'écrire. On vous donne une autre vision du RC Lens, l'actu, de l'histoire. Si vous aimez le RC Lens, à mon avis c'est le cas, hein, sinon vous ne seriez pas en train d'écouter ça, n'hésitez pas à aller sur ce site. Et il y a également les rediffs, le podcast. N'hésitez pas à partager le live au maximum autour de vous parce que voilà, on fait ça pour vous et plus on est écouté, plus on sera également heureux. Ça nous permettra de faire vivre l'émission et l'équipe Culture Sang et Or. J'ai beaucoup parlé. Je vais vous laisser sur deux mots un peu risqués, mais je vais les lâcher comme ça parce que je n'ai peur de rien. Vous le savez, vous commencez à me connaître. Allez, lance.